Et Seigneur, nous te remercions pour ta bonté envers nous. Merci pour ton Église que tu bâtis, que tu es fidèle et tu la bâtiras jusqu'au bout, Seigneur. Dans les épreuves aussi bien que dans les bons moments, Seigneur, les moments de joie. Seigneur, et merci de nous ouvrir le cœur et l'intelligence à ta parole, Seigneur, pour que ton Église soit ce flambeau dans ce monde, Seigneur, ta lumière dans ce monde, que nous soyons, voilà, tes témoins. Seigneur, merci encore et d'être avec nous pendant ces moments. En ton nom, Jésus. Amen.
Amen.
Alors, j'ai intitulé ce message Les pourquoi de Dieu. Parce que si nous avons nos pourquoi, Dieu a aussi ses pourquoi. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche de l'Église persécutée. Alors, on ne s'était pas vu avec Pascal, mais j'ai pas préparé un message sur psaume 46, mais sur le psaume 2. Qui est, je trouve, dans la continuité de ce qu'a dit Pascal. C'est donc le dimanche de l'Église persécutée. Et donc, si vous avez reçu le journal de l'Église de Porte Ouverte, quelqu'un de l'organisation Porte Ouverte raconte les impressions d'un voyage au Mexique où les chrétiens sont persécutés durement. Et je vais vous lire son petit témoignage. Je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai découvert ce panneau. Il est strictement interdit à des pasteurs ou des prédicateurs d'autres régions d'entrer dans ce lieu. Celui qu'on surprendra sera passible d'une peine d'emprisonnement conformément aux accords de la communauté. Voilà. Pour dire que là-bas, comme dans d'autres pays, les chrétiens, nos frères et sœurs sont durement persécutés. Alors, il n'y a rien de nouveau. Depuis ses origines, l'Église subit des persécutions plus ou moins fortes pour l'empêcher de proclamer Christ. Et les apôtres Pierre et Jean s'étaient vus interdire absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Loin d'être découragés, ils ont rejoint la communauté, hein, et qui a prié et qui a cité le psaume 2, sur lequel je me suis attaché. Et ils ont cité le psaume 2 en Actes 4, 25 à 26. Alors je vous lis Actes 4, 25 à 26. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ils ont prié, ils ont cité ce psaume 2. Résultat, eh bien, ils auraient encore plus d'assurance pour annoncer la parole de Dieu. Verset 31, dans toujours Acte 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Alors, comment réagir face à la persécution? On peut être soi-même victime de la persécution, mais comment réagir aussi quand d'autres sont victimes de persécution? Alors, je vous invite à prendre le psaume 2, hein. Et que je vais lire. Donc le psaume 2. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Donc jusqu'ici la parole de Dieu. Le roi de Dieu. Eh bien, d'après ce psaume, il y a à la fois un refuge pour les uns et une terreur pour les autres. Et c'est ce que je vous invite à voir autour de ce psaume, en méditant autour de ce psaume. Eh bien, on va le voir en trois points. Premièrement, nous allons voir en quoi consiste la révolte des rois. Deuxièmement, nous verrons qui est le roi élu de Dieu. Et troisièmement, nous verrons l'appel et l'heure du choix. Donc premièrement, voyons la révolte des rois de ce monde. Alors ce psaume, pour situer le contexte, c'est un psaume de David qui est cité dans Actes. C'est un psaume prophétique et messianique et qui s'applique à différentes époques, aussi bien à la coalition d'Hérode et de Pilate, donc des Juifs et des païens, contre la personne de Jésus-Christ. Il s'applique aussi à la longue liste des persécuteurs du peuple de Dieu sous les deux alliances. Et enfin, il s'applique à la future grande révolte des nations que les prophéties annoncent peu avant le retour de Christ. Et ce psaume, vous l'avez remarqué, il commence par « Pourquoi ?» Non pas le pourquoi de l'homme, mais le pourquoi de Dieu. Alors, nous avons tous, nous autres, nos pourquoi, n'est-ce pas, adressés à Dieu. Pourquoi le Covid ? Pourquoi telle famille de l'Église est-elle si durement éprouvée ? Alors, dans notre Église, on a une famille qui est dans ce cas-là, qui est éprouvée, pas par le Covid, mais un frère de notre Église dont la fille de 12 ans suit une chimiothérapie très éprouvante. Pour elle et pour toute la famille, eh bien, ce frère nous a partagé qu'il en était arrivé à ce stade où il avait cessé de demander pourquoi à Dieu. Mais maintenant, il demande comment. Comment faire face à cette épreuve? Et bien sûr que l'Église prie pour eux. Et il y a des encouragements. Alors, nous avons nos pourquoi. Mais si nous avons nos pourquoi, Dieu a aussi ses pourquoi qu'il adresse à l'homme et qui interpelle. Et les pourquoi de Dieu sont redoutables, parce qu'ils portent sur quelque chose de vraiment ténébreux. La première fois que Dieu a demandé pourquoi, vous vous souvenez, c'était à Ève, en Genèse 3,13, pour lui demander pourquoi elle avait mangé le fruit défendu. Le péché originel, la désobéissance à Dieu, venait de naître et de rentrer dans le monde pour tous nous atteindre. Et c'était suffisamment grave pour susciter le pourquoi de Dieu. Pourquoi l'homme ne veut pas de Dieu ni de ses lois? Le péché. Mais le péché ne se contente pas d'une petite place. Il veut toujours plus et plus de place. Le péché ne se contente pas de désobéir à Dieu, c'est dans sa nature même, mais il ne s'arrête pas là. Il veut devenir démesurément péché dans sa nature. Il ne veut pas s'arrêter, n'étant jamais satisfait. Le péché veut prendre la place. Le pécheur veut prendre la place de Dieu, allant même jusqu'à oser se mettre en guerre ouverte contre lui. Et c'est de cela dont il s'agit dans ce psaume. Alors, s'en prendre à l'Église, c'est s'en prendre au Fils. Et s'en prendre au Fils, c'est s'en prendre au Père. Alors, ce n'est pas rien. Ceux qui ne vivent pas pour Dieu, qui ne se sont pas repentis de leur désobéissance, finiront par être contre lui et à s'unir pour lui faire la guerre. Et dans le monde, eh bien, un moyen de s'unir, c'est de se choisir un ennemi commun. Rien de nouveau, hein. On l'a bien vu pendant les deux guerres mondiales. C'est tellement humain de se joindre aux critiques des autres contre un tel pour ne pas soi-même être l'objet des critiques. Hérode et Pilate, d'ennemis qu'ils étaient, sont devenus amis pour condamner Jésus. Et ici, au psaume 2, nous assistons au summum du péché, à son aboutissement. Les grands de ce monde, les rois de la terre finiront par s'unir ensemble contre un ennemi commun qui est Dieu. Dieu lui-même est celui qui l'a choisi, son oint. Et Dieu demande pourquoi. Alors aujourd'hui, et Pascal nous l'a rappelé, hein, nous vivons dans une société de crise, qui traverse beaucoup de crises, et nous vivons dans une société avec des problèmes éthiques qui condamnent toute religion, qui est de plus en plus en révolte contre Dieu, prétendant que pour être heureux, il faut se passer de Dieu, ne plus avoir de compte à lui rendre. Aujourd'hui, la société vous dit que vous pouvez choisir vous-même le sexe de votre enfant, la couleur de ses yeux, bref, choisir un bébé sur catalogue. Ça se pratique aux États-Unis. Vous pouvez même changer de sexe si vous ne vous aimez pas. Voilà ce qu'on nous dit. Nous sommes à l'heure du chacun pour soi, où même des lois sont votées pour assouvir ses désirs égoïstes. Alors, vous avez entendu de la loi bioéthique, projet de loi bioéthique dans notre pays, et avec ma femme et un couple d'amis de notre église, nous avons participé à une manifestation contre ce projet de loi bioéthique le 10 octobre dernier. Alors, non pas que nous soyons des habitués à manifester, hein, mais là, l'enjeu était trop important parce qu'il touche aux enfants. Ce projet vise à fabriquer des enfants orphelins de père en élargissant la PMA et à permettre des expériences contre nature sur l'embryon humain, élargissant le commerce de la personne humaine. Alors, ce n'est pas rien. Alors, nous manifestions pacifiquement quand nous sommes tombés sur un groupe de gens agressifs qui brandissaient rageusement leurs poings, nous accusant de quoi? De manquer d'amour. Et on se demandait qui manquait d'amour. Et il est clair que celui qui était visé ici, c'était Dieu lui-même. Dieu lui-même est l'image du Père qu'il véhicule. Nous sommes dans ce contexte, dans cette situation. Ces gens étaient aveuglés, bien sûr, et ils ont besoin de nos prières. Au lieu de considérer les liens qui nous lient à notre Créateur comme des liens d'amour, le monde les considère comme un pesant fardeau. L'esprit athée rejette Dieu parce qu'il prétend que Dieu aime à surveiller les hommes pour les punir à la moindre faute, pour mieux les tenir enchaînés, d'où le désir de rompre les attaches pour se débarrasser du joug divin. C'est ce que dit le verset 3. Rompons leurs liens et rejetons loin de nous leur joug. Rébellion contre Dieu. Que pense Dieu de cette rébellion contre lui, ouverte? Eh bien, Dieu demande pourquoi. Pourquoi cette agitation? Et quelle folie, quelle indignation que cette arrogance contre lui. Regardez le contraste entre l'agitation des peuples et le calme de Dieu qui est assis dans les cieux. La rébellion contre Dieu, c'est tout simplement une blague. C'est ridicule de se liguer contre le Tout-Puissant. Regardez le verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Fin de citation. C'est une blague. C'est comme si une souris couinait face à un lion rugissant. Et il suffira d'une parole de Dieu dite dans la colère qui finira par sortir de son silence pour les terroriser. Verset 5. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Alors vous avez remarqué le puits, ce puits qui marque la fin d'une époque, le moment où Dieu dira stop, comme a rappelé ce matin Pascal. Dieu parlera à un moment bien précis. Quand? Eh bien, quand le temps de sa patience aura assez duré. Lorsqu'il aura laissé suffisamment de temps à l'homme pour se repentir et se tourner vers lui pour être sauvé, et il est encore temps, et suffisamment de temps aux rebelles pour manifester toute leur rébellion au point de se liguer ensemble contre lui. Alors, quelle est cette parole que Dieu va adresser? Eh bien, c'est moi, dit Dieu, j'ai établi mon roi que j'ai choisi. Verset 6, moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. La personne, vous avez remarqué, et la personne et l'endroit sont précisés pour bien certifier l'événement, comme s'il était déjà accompli. Alors, qui est ce roi? Bien sûr, nous l'avons tous reconnu. Il s'agit de Jésus, le Fils de Dieu, qui est déjà mentionné si clairement dans un psaume de l'Ancien Testament. Et c'est au tour du roi choisi par l'Éternel de parler. Et les deux, l'Éternel et son roi, sont d'accord. Verset 7, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alors voyons maintenant qui est justement cet élu de Dieu, le roi élu de Dieu, mon deuxième point. Alors, à l'époque des rois, on n'était pas en démocratie, hein, n'est-ce pas? Le fils aîné du roi était automatiquement mis sur le trône à la mort de son père. Et peu importe qu'il soit bon ou mauvais, il n'avait pas à faire ses preuves, il en avait le titre, fils du roi, il n'y avait pas à discuter ni de choix à faire. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes en démocratie à notre époque, et ce sont des présidents de la République qui gouvernent, élus démocratiquement par le peuple. Mais avec Dieu, il n'y a pas de démocratie. Toutefois, il y a quand même un choix à faire. Et ce choix, eh bien, c'est lui déjà, c'est Dieu, qui choisit son roi, le Messie, le Christ. Le Christ veut dire choisi, hein. Alors, comment Dieu s'y prend-il pour choisir son roi? Pourquoi est-il digne de régner? Eh bien, Jésus il était déjà digne de régner de par sa position de fils de Dieu, de la même nature que Dieu. Dieu qui aurait pu le placer sur le trône directement, et il n'y aurait eu plus rien à dire. De toute façon, il est Dieu. Mais Dieu n'a pas procédé ainsi. Dans son amour pour convaincre les hommes de son choix et pour faire taire l'orgueil, eh bien Dieu ne va pas procéder ainsi. Alors, un peuple, quelle que soit sa nationalité, hein, un peuple attend de ceux qui les gouvernent qu'ils fassent preuve d'esprit de service, avec la seule ambition de servir la nation avec justice et non eux-mêmes. Tout peuple aspire à ces choses-là. Et le seul qui réponde parfaitement à ces critères, eh bien, c'est Jésus, le roi de Dieu, qui est le roi serviteur par excellence, qui ira jusqu'à donner sa vie sur la croix pour ses sujets, pour nous offrir le pardon et nous gagner à sa cause et à son royaume. Dieu publie alors un décret. Il parle comme quoi Jésus est son fils. Non, Jésus est son fils non seulement de par sa nature, non seulement de par sa mort sur la croix, mais aussi de par sa résurrection. Et le Nouveau Testament, eh bien, il cite hein, ce psaume 2 et il relie le décret du verset 7 au jour de la résurrection de Jésus. Dans Actes chapitre 13 verset 33, je lis: Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, Dieu a élevé publiquement l'homme Jésus, l'homme au rang de roi des rois, digne de régner, sa résurrection prouvant qu'il était bien le fils de Dieu, et qui a été remis en possession des attributs divins auxquels il avait renoncé pour accomplir sa mission. Alors Jésus, eh bien, que demander de plus, hein, comme preuve? Jésus est doublement héritier, déjà de par sa nature de fils de Dieu, mais aussi de par son œuvre à la croix. Il est héritier, qui dit héritier dit héritage, et son héritage, eh bien, ce sont les nations qu'il a acquises au prix de son sang versé. Mais vous êtes d'accord, on ne voit pas encore que Jésus règne, n'est-ce pas, vu le chaos qui règne, oui, dans le monde. Jésus ne règne pas encore parce qu'il n'a pas encore reçu son héritage, les nations. Et qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, Dieu lui demande de les lui demander. Au verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Viendra le moment où Jésus prendra possession de ces nations. Et ça sera quand? Eh bien, au moment de son retour, pour régner en tant que fils de Dieu. Et comment régnera-t-il? Et là, eh bien, ça peut étonner, hein, mais le texte est très clair. Comment régnera-t-il? Eh bien, il régnera avec une verge de fer envers les chefs et nations qui se seront révoltés ouvertement contre lui. Je relis le verset 9. Tu les régiras avec un sceptre de fer et comme un vase de potier, tu les briseras. Alors, on a parfois tendance à ne voir en Jésus que le bon berger, doux et aimant. Et amen, il est le bon berger doux et aimant. Mais le mot verge peut aussi bien désigner le bâton du berger que le sceptre du roi qui juge. Et Jésus est les deux. Le même Jésus, le bon berger qui nous offre sa grâce aujourd'hui, qui l'offre au monde, sera le juste juge des nations qui séparera les brebis d'avec les boucs lors de son avènement. En Matthieu 25, 32. C'est lui, Jésus, parce qu'il est juge. Et les uns seront sous un régime de miséricorde, ceux qui l'auront accepté, et les autres, qui ne l'auront pas accepté, sous un régime de justice rigoureuse. Alors, ça peut sembler sévère, mais on voit bien qu'une société trop laxiste ne fait qu'empirer lorsque la justice n'est pas exercée. Et dans un État, on est bien content que le gouvernement assure la sécurité de ses habitants et exerce la discipline qu'exige la justice. Alors la question est posée. Et maintenant, que faire? C'est maintenant l'heure de la décision. Versets 10, 11 et 12. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors, le « et maintenant » du verset 10, il vient à point nommé. Quand est-ce qu'il vient? Eh bien, il vient après l'exposé des menaces qu'encourent les rebelles. Et ce « et maintenant », il montre toute la patience et l'amour de Dieu qui ne se lasse pas d'appeler et de vouloir sauver. Et c'est dans la pédagogie de Dieu, hein. Dans beaucoup de récits, dans tous les récits bibliques, avant de sanctionner, eh bien, Dieu avertit. Il prévient, il avertit, il appelle à revenir à lui. Contrairement à l'idée fausse du monde que Dieu serait le père fouettard prompt à frapper à la moindre faute. Non, Dieu avertit, il appelle. Et l'histoire du peuple d'Israël en dit assez là-dessus. Alors voyons maintenant le troisième point, l'appel et l'heure du choix. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate très souvent, n'est-ce pas? Quand on évangélise, on s'arrête souvent à « Jésus t'aime et t'offre sa grâce ». Amen, c'est vrai. Amen, n'est-ce pas? C'est juste. C'est juste de parler de la grâce de Dieu, mais c'est juste aussi de parler de sa colère à quelqu'un qui s'entête dans son refus, dans son endurcissement. Et le verset 12 est on ne peut plus clair, le verset 12 de notre psaume 2. Et le Nouveau Testament, eh bien, il en parle aussi de la colère. Contrairement à l'idée reçue que le Nouveau Testament ne parle que de la grâce de Dieu, eh bien, il parle aussi de la colère. Et je vais lire Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, comme dans le psaume 2, verset 12, grâce et colère sont les deux seules alternatives. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a que deux façons de vivre. Soit on reconnaît Jésus pour ce qu'il est, le roi des rois, bénéficiant de sa grâce, du pardon de nos péchés, et on se soumet à lui, et ça change tout. Soit il ne l'est pas, et on continue comme avant, au risque de finir par être en guerre ouverte contre lui. Et quelqu'un a dit, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Alors, le refuser comme roi, eh bien, c'est refuser l'évidence. C'est comme refuser la loi de la pesanteur. C'est comme si quelqu'un disait, aujourd'hui, je n'accepte plus de marcher sur le sol. Je vais voler de mes propres ailes et me jeter du 7e étage. C'est absurde, n'est-ce pas? On imagine le résultat. Alors c'est vrai que ce psaume, eh bien, il met les émotions à rude épreuve. Hein. Parce que le choix se situe entre deux extrêmes, mais il n'y a pas de milieu. Le choix se situe entre la menace de destruction résultant de l'incrédulité et la promesse du bonheur véritable et inégalable avec Dieu. Parce que Jésus est à la fois un refuge, le vrai refuge pour ceux qui l'auront accepté, et le juge de ceux qui l'auront refusé en tant que roi. Alors on comprend mieux le verset 11, « Réjouissez-vous avec tremblement ». Pas facile ce verset, comment est-ce qu'on peut se réjouir en tremblant devant la personne de Dieu? La crainte du Seigneur, elle n'est pas faite de peine, mais elle est faite de joie, quand on se soumet à lui avec un cœur bien disposé, pas juste extérieurement. Et c'est cette crainte, n'est-ce pas, qui manque tellement aujourd'hui. Une crainte qui n'est pas paralysante, mais respectueuse. Alors, rappelons-nous, c'est Dieu, et non pas le peuple qui choisit son élu, Jésus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire? Non. Chacun a à se positionner. C'est Dieu qui choisit son élu, mais Dieu appelle chacun, petit et grand, à faire aussi un choix qui soit le même que lui. Dieu a choisi, il appelle chacun à choisir son noin. À choisir le Christ. Tant qu'il est temps. Et Jésus, eh bien, on a toutes les raisons de voter pour lui, on a beaucoup entendu parler des élections ces derniers temps, mais Jésus, il n'est pas un dictateur, il est tout le contraire d'un dictateur. Qui ne voterait pas pour un tel roi qui n'a pas revendiqué son titre, qui n'a pas dit « votez pour moi », mais qui a montré en acte le plus grand amour en donnant sa vie pour notre pardon. Et d'après le verset 12, qui est un psaume qui est tellement parlant, hein, eh bien littéralement il s'agit d'embrasser le Fils de Dieu, d'avoir une proximité aimante avec lui. Et effectivement, c'est plus facile d'obéir à quelqu'un que l'on aime, n'est-ce pas? Parce que Dieu, eh bien, il est devenu non seulement le roi, mais le Père de tous ceux qui ont accepté son Fils Jésus, en nous intégrant dans sa famille. Le plan de Dieu, c'est de se créer une famille, l'Église. Et en tant que Père, eh bien, il veut être constamment en étroite communion avec nous, ses enfants. Constamment. Alors, c'est pas le même processus que pour nous, hein, famille humaine. Autant c'est chose normale de quitter père et mère pour fonder une famille, hein. Vous vous rappelez, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Eh bien, pour Dieu, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, eh bien, pour Dieu, c'est l'inverse. Notre bonheur dépend de notre attachement constant à lui, avec des liens d'amour, pas des chaînes de prisonniers. C'est une autre relation, n'est-ce pas, avec le Père. Alors, bien sûr, ça n'enlève pas les épreuves, les difficultés. Et il se peut qu'en tant que croyants, nous ne comprenions pas telle ou telle épreuve quand elle arrive. Ou que nous avons l'impression que nos prières restent sans réponse. Mais le témoignage de cette sœur tout à l'heure était édifiant. Parce que malgré l'épreuve, eh bien, elle restait attachée au Seigneur. Les épreuves, quand finira ce Covid? Alors, quelle solution? Se révolter contre Dieu n'amènerait qu'amertume. Et on raconte l'histoire de ce frère qui a dit à son pasteur, « Pasteur, j'en ai assez, je ne vois pas Dieu, il ne répond pas à mes prières, je quitte l'Église et Dieu. » Ce à quoi le pasteur lui a répondu, « Très bien, mais avez-vous pensé à dire au revoir à Dieu ?» Ce à quoi le frère n'a pas su répondre. Dieu tient toujours ses promesses. Faisons-lui plutôt confiance. Et ce psaume se termine par une promesse divine. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux. Jésus, il est le roi. C'est un fait établi, confirmé par Dieu. Il est le roi. Alors demandons-lui de régner dans notre vie. Que ça soit lui qui siège sur le trône de notre vie et non plus notre moi. Son joug, il est léger, à la différence des autres rois. Jésus a dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger » en Matthieu 11, 30. Déjà, demandons-lui de régner dans notre vie. Et puis aussi, eh bien, regardons le verset 8. Dieu demande à Jésus de lui demander son héritage, à savoir les nations. Eh bien, cet héritage, il est aussi notre héritage, à nous l'Église. Jésus l'a acquis pour nous, son Église, parce que nous sommes co-héritiers avec lui. Et nous régnerons même avec lui sur les nations. Et comment est-ce que nous régnerons? Eh bien, de la même manière que lui, avec une verge de fer. Et là, eh bien, je vais lire Apocalypse 2, 26 à 27, qui, c'est pas moi qui le dis, hein. Je lis Apocalypse 2, 26, 27. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Nous régnerons avec Jésus, comme Jésus. Alors, quelle application pour nous? Quand Dieu dit à son Fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, eh bien ça vaut aussi pour nous, son Église. Dieu veut que nous lui demandions par cette même prière ce qui sera notre héritage, c'est-à-dire des âmes pour Jésus. Dieu veut que nous lui demandions des âmes pour Jésus. Demandons pour Jésus, demandons-lui les nations. Et les nations qui persécutent l'Église, et il y en a. Si vous prenez l'indice de persécution de porte ouverte, ça commence par la Corée du Nord, et puis l'Afghanistan, et puis il y en a plein d'autres. Et on peut citer dernièrement dans l'actualité la Colombie et le Mexique où nos frères et sœurs sont durement éprouvés. Demandons à Dieu pour Jésus les nations qui persécutent l'Église notamment. Prions pour l'Église persécutée, nous qui avons encore un espace de liberté. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera? Aussi, plus près de nous, eh bien, demandons à Dieu pour Jésus tous ceux qui le refusent dans notre entourage. Et peut-être vous pensez à quelqu'un, famille ou collègue, quelqu'un qui refuse ouvertement, malgré votre témoignage, le Seigneur Jésus. Réclamons-les à Dieu avec cette promesse de Jésus lui-même. En Jean 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Demandons à Dieu pour Jésus des âmes dans notre famille, dans notre travail, ceux que nous ne connaissons pas, les pays persécuteurs, et aussi notre propre pays. Eh bien, prions pour nos autorités, prions pour le gouvernement, pour le président, pour qu'ils soient des serviteurs, à l'exemple de Jésus, le roi serviteur par excellence. Amen. Je vais prier. Père éternel, nous te disons merci car, Seigneur, tu es patient. Quelle patience, Seigneur, tu as avec ta création. Seigneur, tu ne te lasses pas d'appeler, Seigneur. Tu ne te lasses pas d'appeler. Tu as fait tout ce qu'il y avait à faire pour nous sauver, pour sauver les hommes. Seigneur, merci pour l'Église qui t'a accepté, pour nous, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui nous attendons à toi. Seigneur, tu es ce Dieu trois fois saint vers qui nous pouvons nous approcher, à qui nous pouvons demander par Jésus, parce qu'il a tout accompli à la croix pour nous sauver et pour nous permettre l'accès au Père. Seigneur, je te remets, oui, je réclame pour toi des âmes, je réclame pour toi les âmes de tous ceux qui persécutent l'Église, notamment voilà les dirigeants de ces pays. Seigneur, nous te demandons voilà que ces pays sachent que tu es Dieu et que tu dis arrêtez et sachez que je suis Dieu. Seigneur, je prie que voilà, je te prie pour les pays où l'Église est persécutée, notamment la Corée du Nord, ou le Mexique, ou la Colombie, ou l'Afghanistan, et d'autres aussi. Que tu aides nos frères et sœurs à tenir bon, Seigneur. Je te prie aussi pour eux, plus près de nous, Seigneur, tous ceux qui t'ont refusé ouvertement, qu'ils sachent quels risques ils encourent, Seigneur, si ils ne viennent pas à toi à temps. Seigneur, nous te demandons de leur parler dans leur cœur, de les toucher, et nous te prions que nous, l'Église, nous soyons ta lumière, nous reflétions ta lumière. Merci encore, Père, pour ces instants. Merci de nous guider dans tes voies et de nous aider à, si nous ne comprenons pas tout, à nous attendre à toi, parce que, Seigneur, tu es fidèle et tu nous aimes. Au nom de Jésus. Amen.